Vous écoutez Vie d'aventure par Denis Brognard.
Mon invité cette semaine, Thomas Coville. Marin, mais pas que. Observateur de la vie, la sienne, mais aussi celle des autres. À bord de Sodebo, il a battu en 2016 le record du tour du monde à la voile en solitaire, en 49 jours, 3 heures et 7 minutes, record depuis amélioré par François Gabart. Thomas Coville est un navigateur humaniste, un esthète de la mer. Bonjour Thomas Coville.
Bonjour.
Alors Thomas, on vit une époque totalement chamboulée avec ce confinement et ce déconfinement. Et j'ai envie de dire que pour toi, le confinement, c'est ta vie quotidienne sur ton bateau. Combien de mètres carrés habitables sur ton maxi trimaran ?
Bon, la superficie sur Sodebo, c'est, je dirais, 6 mètres carrés dans la partie supérieure. Et puis en dessous, dans la coque, il y a à peu près 8 mètres carrés. Mais c'est vrai que c'est, par rapport à la taille du bateau, c'est ridicule. Je suis parfois en solitaire et puis quelquefois on est en équipage. On peut être jusqu'à 7 dans cet habitacle. Donc c'est vrai que les endroits exigus ou le confinement, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, qui fait partie de ma manière d'évoluer.
Thomas, quels enseignements tu vas tirer de ce confinement, de cette période ?
Cette époque qui veut toujours tout savoir sur tout et pouvoir faire chaque geste parfaitement en connaissant tout, là, elle se retrouve dans l'incertitude permanente. On ne sait pas, on ne connaît pas la solution et pourtant, il faut continuer à vivre et avancer. Et ça ressemble très souvent à ma manière de naviguer. Mike Horn, le parrain du trimaran Sodebo sur lequel je navigue en ce moment, m'avait dit une très belle phrase quand il est venu baptiser le bateau. Il m'avait dit, tu sais Thomas, toi quand tu pars en mer parce que tu es ingénieur, tu veux absolument savoir 80% de ce qui va t'arriver. Et bien moi, quand je pars dans une expédition, je ne sais que 20% de ce qui va m'arriver. J'ai retenu ça de ce baptême, en fait. Et ces phrases résonnent aujourd'hui pour moi très fort, puisque effectivement, vouloir tout savoir, c'est vouloir être se rassurer. C'est Nietzsche qui disait ça et c'est, je pense, aujourd'hui ça qu'il faut accepter. On avance dans un monde qui nous demandera de plus en plus de nous adapter et de ne pas savoir. Et c'est finalement très jouissif de ne pas savoir et d'accepter de ne pas savoir.
Alors, comment on va sortir, Thomas, de cette période-là ?
Je ne suis pas sûr qu'on vivra des révolutions après cette pandémie, mais je crois plus à des évolutions. Et ça m'enthousiaste d'ailleurs un peu plus. Je lisais l'autre jour dans Le Monde Edgar Morin. Et on est, surtout en France d'ailleurs, on veut toujours tout révolutionner. Or, je pense que l'évolution est plus intéressante et plus finalement pragmatique ou réaliste que la révolution.
Moi, je voudrais qu'on revienne à la genèse de cette passion, parce qu'au départ, ce n'est pas faire injure à ta famille que de dire que tu ne viens pas du milieu, que tu n'es pas issu du sérail.
Moi, je me mets à faire du bateau à voile parce que je suis un petit garçon chétif. Je grandis très tard, je suis très complexé par mon physique, je suis très complexé par mon rapport à l'autre, j'ai un père très autoritaire et j'ai, lors d'un séjour en centre aéré, ce coup de foudre avec l'élément entre l'eau et le vent, ce contact avec juste le vent sur ma peau, le contact de l'eau, la vague du bord de l'eau en Bretagne Nord, pourtant l'eau était froide, et j'ai ce coup de foudre. Et je sais qu'aujourd'hui, chaque fois que je retourne naviguer sur n'importe quel support, ça peut être un trimaran de 32 mètres comme Sodebo, ou ça peut être un kayak ou une planche à voile, ou même le plus petit support, je retrouve cette sensation, cette émotion, cet émerveillement permanent que j'ai encore adulte et qui me relie au petit garçon et à ma relation avec mon père. C'est assez magique, mais c'est ça que je renoue chaque fois que je retourne sur l'eau.
Thomas, dans ton histoire, il y a aussi la transmission. Tu as partagé l'expérience de grands marins. Je pense à Éric Tabarly, je pense à Laurent Bourgnon. Mais je voudrais que tu évoques Olivier de Kersauzon, avec qui, en 1997, tu as participé au trophée Jules Verne, ce tour du monde en équipage. Et ça a été, j'ai envie de dire, haut en couleur.
Ah ouais, non, mais le marin qui te dit qu'il fait de l'équipage et que ça s'est toujours bien passé ou que... Non, il y a des fois, ça frite. Hein. Alors pour le coup, le confinement, Faut à la fois se faire respecter, faut à la fois respecter l'autre. Et puis, mais oui, il y a eu des mots, il y a eu même, on n'était pas loin d'en venir aux mains sur des sujets qui étaient déjà d'actualité. Je me suis heurté à Olivier Tiersozon sur les ordures. Donc voilà, un sujet. Et c'était pas sa génération, et c'était pas son prisme, c'était pas du tout dans sa tête que de trier les ordures et pas de les jeter par-dessus bord. Et moi, c'était complètement impossible de concevoir un tour du monde où on allait jeter des ordures par-dessus bord. Or, à l'époque, tout le monde faisait ça. Et je me souviens effectivement qu'on a eu une discussion très houleuse, donc pas forcément que sur la performance du bateau. Et pour autant, Olivier Tiersozon était un très bon chef de bord. C'était pas de la démocratie à bord, hein, mais il n'y a pas beaucoup de démocratie sur un bateau. mais c'est un personnage qui est resté d'ailleurs dans mon histoire. Et quand je reprendrai Geronimo pour faire ce tour du monde en solitaire, je rachète son bateau. Donc la boucle est bouclée avec lui. Cette relation, même si elle peut être à un moment donné en désaccord, même si elle a été effectivement conflictuelle, voire ouais, c'était chaud. Ouais. Mais j'aime justement cette capacité à se confronter, à aller jusqu'à loin dans la confrontation, voire dans la lutte, et pourtant se respecter et continuer à avancer ensemble, et que la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. Elle nous a remis ensemble et elle nous a fait nous re-rencontrer plus tard. Et ça, j'aime ces pieds de nez à la vie et aux rencontres. Oui, c'est un personnage très atypique. Mais quand tu as fait un tour du monde avec Tiersozon, je pense que tu as appris beaucoup de choses. D'ailleurs, je considère que chacun de mes tours du monde, je crois en avoir fait presque une dizaine, ou en tout cas, j'ai 10 ou 11 Cap Horn, c'est quasiment la chance d'une vie de plus, où c'est quasiment une vie entre parenthèses. C'est un moment où j'ai encore plus appris que quand, effectivement, j'ai l'impression d'apprendre plus en mer qu'à terre, ça c'est sûr.
Tu as aussi une furieuse envie en permanence de comprendre. Est-ce que ça te vient de ta formation? Parce qu'en parallèle de ta carrière de marin, en devenir, eh bien, tu passes un diplôme d'ingénieur.
C'est vrai que je suis attiré par les sciences. Je me suis retrouvé aussi à finir mon cursus et mon service militaire à l'école polytechnique avec des ingénieurs de très haut niveau. Ça m'a ouvert aux sciences dures, comme on dit. Mais j'ai toujours, grâce à mes parents, gardé un pied aussi dans les lectures et la philosophie. Je m'inspire effectivement énormément de ça et j'en ai besoin. Et ça m'a fait en fait comprendre cette relation à la nature que j'ai aujourd'hui. J'ai besoin de couleurs, j'ai besoin d'art, j'ai besoin de musique, j'ai besoin de philosophie, j'ai besoin de raisonner, sûrement pour me rassurer aussi. Hein. Et un bateau comme un trimaran, quand je le conçois, je m'inspire de tout ce que je vis, de tout ce qui me nourrit autour de moi. Quand je dis que ce trimaran-là est né de la musique et de la musique de chambre, les gens sont un peu, se disent, mais hop, 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 hop.
Il est parti très loin, Thomas, certains doivent se dire.
Ouais, c'est ça, ouais. Ça me plaît aussi de provoquer ça chez les gens qui, effectivement, regardent ce trimaran.
Revenons à la fin des années 90. Tu viens de gagner la Route du Rhum sur Aquitaine Innovation. Tu as gagné la Jacques Vabre en 99 en double avec Hervé Jean. Et puis là, arrive cette rencontre que j'ai envie de dire magique avec la famille Bouguereau, les créateurs, les propriétaires de la marque Sodebo. Ça a changé ta vie et ça fait plus de 20 ans que ça dure.
Oui, cette famille, elle m'a complètement bouleversé. Elle m'a appris la vie, elle m'a... Et encore une fois, je ne pense pas que je pouvais rencontrer des gens qui étaient aussi différents que moi, aussi différents que l'éducation que j'avais reçue. Monsieur Bouguereau, il démarre avec Simone Bouguereau, charcutier à Montaigu, et ils ont cette sensibilité, pour autant, qui me touche énormément, cette authenticité, cette vérité, ce rapport humain et cette main tendue qui m'est tendue. C'est une rencontre qui changera toute ma vie, qui changera mon regard sur le monde. Et ils vont surtout avoir cette patience de me laisser du temps pour apprendre, de me laisser du temps pour comprendre. On va grandir ensemble, on va avoir des relations qui vont dépasser le cadre seulement mercantile ou sponsoré, qui souvent est très contractuel. Et j'avoue que j'ai une reconnaissance éternelle à cette famille et à cette entreprise, ça c'est certain.
Joseph, Simone, charcutier, devenu industriel. Et puis ensuite, il y a leurs trois filles, hein, Patricia, Marie-Laurence, Bénédicte, qui prennent la suite. Toi, tu disputes le Vendée Globe, hein, ce tour du monde en monocoque. Puis tu te lances dans cette formidable histoire du multicoque. Et tu as coutume de dire que c'est dans l'échec, pendant de nombreuses années, que tu as construit ton succès et tes résultats.
C'est ce qu'il y a de plus intéressant ou de valorisant dans ce qu'on peut regarder quand on décrypte un athlète en général. C'est sa capacité à tenter des choses incroyables, à relever des défis et à voir comment il y est arrivé et effectivement le chemin qu'il a mis pour y arriver. Et moi, j'ai été, entre guillemets, lent, hein. J'ai mis du temps à y arriver. Mais cette pugnacité, le fait de vouloir comprendre, d'apprendre, de pas lâcher, d'aller jusqu'au bout, mais après, effectivement, être beaucoup tombé et se relever et de recommencer. Mais tous les athlètes qui me fascinent ont cette démarche-là. Alors, je veux pas dire que non plus il faut rechercher l'échec ou la douleur ou pour arriver à ses fins, mais je crois à cette vertu d'être capable pour autant d'en faire à chaque fois de cette contrainte de l'échec une opportunité d'aller plus loin, plus haut, plus fort.
Est-ce que c'est à ce moment-là, eh bien, que tu vas à la rencontre d'une coach mentale néo-zélandaise ?
Oui, c'est ça. On va décoder et décortiquer finalement ma relation à l'échec à l'époque et à la construction vers la victoire ou est-ce qu'on construira ensemble après et qui sera assez spectaculairement performant. C'est-à-dire que quelques mois après cette rencontre ou ce travail avec Lynn, effectivement, je repars sur ce tour du monde pour aller battre le record autour du monde en multicoque et passer sous la barre des 50 jours. Je l'avais tenté quatre fois et là, quelques mois seulement après avoir fait cette rencontre avec Lynn, je me relance dans cette gageure. Tenter un record autour du monde en solitaire cinq fois, je crois que c'est assez unique et c'était... d'ailleurs, le microcosme me disait « bon, bah, il n'y arrivera jamais, la barre est trop haute ». Et à chaque fois, les conditions étaient différentes. Et là, on y arrive. Et ça a été un moment absolument extraordinaire pour moi, mais aussi pour tout le groupe et pour cette entreprise et pour ce débat. On a eu à un moment donné ce pari qu'on fait humain, ce pari de la confiance, ce pari de se baser sur nos échecs d'avant et qui, d'un seul coup, prend tout son sens. C'est ça la magie de l'échec, c'est qu'à un moment donné, quelque chose qui est nauséabond, qui est... un marécage, j'emploie les mots que j'ai employés quand j'étais avec Lynn, c'est amusant, d'un seul coup prend son sens et donne un sens. Et là, j'avoue que dans l'époque qu'on est en train de vivre, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que de ne jamais douter que le pire marécage ou la pire mauvaise odeur, à un moment donné, quand on arrive à lui donner du sens, ça devient merveilleux.
Alors c'est étonnant quand on regarde ton palmarès, ton parcours, évidemment, tu as participé à toutes les plus belles courses, tu en as gagné certaines, mais j'ai envie de dire que tu es d'abord et avant tout un chasseur de records. Depuis Miami-New York en 2005 jusqu'au record de l'Atlantique Nord en solo en 2017, pourquoi cette appétence pour les records ?
Pour moi, le record, c'est cette recherche qu'on a tous au fond de nous, de trouver un support, de trouver un moyen d'exprimer notre singularité. C'est que quand tu bats un record, tu es unique à avoir fait à un moment donné de l'histoire, de ton histoire, mais aussi de l'histoire, cette chose-là. Et moi, quand je vais chercher ce record ou les records, que ce soit effectivement l'Atlantique Nord, Miami, New York, ou la Méditerranée, les 24 heures, le Tour du Monde, j'exprime au monde qui je suis, en étant unique et singulier. Il y avait personne ne l'a fait avant, il y en aura d'autres à le faire après, mais à cet instant T, je suis cette personne-là et je suis singulier. Et dans la magie de l'humain, dans la magie des gens qu'on rencontre, la singularité de chaque être, qu'on est tous uniques, me fascine Et je recherche ça dans le record, ça c'est certain. Mais comme je le relis à l'art, chaque personne qui fait une photo, chaque personne qui fait un son, chaque personne qui, il a à un moment donné cette peut-être cette vanité aussi, hein, peut-être, hein, mais aussi cette envie d'exprimer sa singularité et d'être unique. Et le record pour moi, c'est cette manière, c'est ce que j'ai trouvé moi en tant qu'athlète de m'exprimer.
Alors le plus beau des records. On se remémore, 2016, on est au mois de novembre. Le même jour que le départ du Vendée Globe, tu t'élances, toi de Brest, pour ce fameux Tour du Monde. C'est la cinquième fois que tu le tentes. Dans ta tête, est-ce que tu te dis, c'est maintenant ou jamais, c'est la dernière fois que j'y vais?
Je me mets pas cette barrière mentale justement de me dire c'est la dernière fois parce que ce serait rajouter de la pression inutile alors qu'il y en a déjà... énormément. Effectivement, je le tente une cinquième fois. Il y a la pression des quatre éditions précédentes. Donc non, je suis pas à me dire c'est la dernière fois, mais je vis ça comme une chance et j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie et j'ai changé beaucoup de choses dans ma préparation pour que cette cinquième édition ou cette cinquième tentative soit différente. Ça, c'est certain.
Est-ce que tu sens, Thomas, dès les premiers milles nautiques, dès la descente de l'Atlantique, qu'il y a quelque chose qui te permet de comprendre et de croire que c'est peut-être la bonne?
Alors déjà, je descends très très vite. On descend en 5 jours, 20 heures à l'équateur, ce qui reste d'ailleurs le record, même par rapport à François Gabart.
François Gabart qui a battu depuis le record du Tour du Monde.
On descend très vite et tout de suite avec Jean-Luc Nélias, mon routeur à terre, on a cette complicité de sentir qu'on est dans une spirale où effectivement on est dans le bon tempo. Je me suis mis tout de suite très vite dans un rythme très rapide. Ils ont même un peu peur que ça soit trop rapide parce que le début est très très impressionnant. Sous l'Afrique du Sud, par contre, il y a un passage. Faut vraiment passer dans un trou d'aiguille entre les glaces et l'anticyclone sous l'Afrique du Sud, sous Cape Town. Là, j'aurai une succession d'empannages qui demandent beaucoup d'efforts et beaucoup d'engagement physique. Et ça passe. Et là, on enchaîne l'océan Indien, qui est celui que je redoute le plus. L'océan Indien, c'est à chaque fois là où j'ai eu les plus grosses vagues. Et de nouveau, on a des vagues de plus de 10 mètres. On a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de glace qui est remontée d'Atlantique Sud et qui vient s'effriter dans l'océan Indien. Et là, toute l'Indien est difficile et laborieux. Je suis déjà un petit peu fatigué. Et là, j'ai comble du comble, j'ai une infection au niveau du genou qui, à un moment donné, pourra mettre en cause ma santé.
Alors, c'est là, Thomas, que tu te retrouves au milieu de nulle part, sans possibilité d'être secouru. Et tu vois ce genou qui, de jour en jour, devient de plus en plus gros, de plus en plus douloureux. Comment on réagit à ce moment-là? Comment on est capable de passer outre et finalement de continuer? Alors que si l'infection grandit, eh bien c'est ta vie qui peut être en péril.
Ouais, sous l'Australie, là, y a une décision importante à prendre. Effectivement, je suis sous antibiotiques et puis l'antibiotique ne fait pas d'effet. Mon genou, il grossit jour en jour. Il devient même douloureux, j'ai du mal à me déplacer, je commence à avoir de la fièvre, des ganglions, enfin, là, ça devient chaud. Et là, je me fais confiance, et je fais confiance quelque part à mon corps. Ça, c'est l'athlète qui, à un moment donné, il a développé pendant des années une relation quelquefois douloureuse dans l'entraînement, dans le physique qui est relié à son mental, mais qui se relie pas forcément à des choses très cartésiennes ou. Et je me fais confiance, je me sens fort que ça guérisse avec un deuxième antibiotique plus fort, mais je ne sais pas. J'avoue, quand je prends la décision, tout n'est pas écrit et j'empanne pour repartir vers l'Antarctique. Et là, je sais que si l'antibiotique ne fait pas vraiment effet, la septicémie sera trop rapide pour que j'aie le temps de remonter en Nouvelle-Zélande et je serai engagé dans le Pacifique. Et dans le Pacifique, il faut que j'aille jusqu'au Cap Horn. Donc, c'est vrai que là, c'est un moment... audacieux, c'est un moment engagé, fort, qui n'engage que moi d'ailleurs. Je m'engage moi dans la pente là, et d'ailleurs on fera un Pacifique d'anthologie. des grandes journées à 600 000, 700 000, 800 000, où je vais avoir un plaisir incroyable, mais aussi l'anxiété, parce que je suis aussi pris dans un cyclone qui s'est formé au niveau des Fidji et qui est descendu dans le Pacifique. Et là, c'est comme si je skiais devant une avalanche, mais c'est aussi une jubilation terrible.
Thomas, est-ce qu'à un moment, quand tu commences à t'engager dans le Pacifique, tu penses à la mort ?
Je sais pas que je pense à la mort, c'est que je l'ai accepté et je me dis même de façon assez libre et assez détendue que dans l'immensité dans laquelle je suis à ce moment-là, je suis pas très important. Et qu'à un moment donné, c'est ça qui est un petit peu complexe à expliquer, la relation que je peux avoir de temps en temps avec ce que j'exprimais du petit garçon, du vent sur ma peau, la relation à l'eau, à la mer et tout, me fait rentrer dans une espèce de dimension peut-être un peu mystique, en tous les cas qui va jusqu'à quasiment effectivement ce qu'on appelle en philosophie la transcendantale, qu'on est dans un espèce de grand tout et dans lequel je fais partie, je suis dans cet équilibre-là, mais je ne suis pas très important. Et je me sens bien quand je ne me sens plus très important et que je me ressens plutôt libre et vivre en acceptant la mort et en acceptant de ne pas grand-chose. Et c'est une sensation mais qui te donne d'un seul coup une légèreté. Je pense que c'est là où on se détache un peu du monde et où on se détache un peu du moi un peu trop fort. Alors, il y a un égoïsme aussi par rapport à mes enfants, par rapport à mes proches, de ne pas revenir si jamais je mourais. Mais c'est aussi de leur envoyer le message que je les aime énormément, que je vraiment... Mais que la vie leur fera rencontrer aussi des gens autres, peut-être plus importants, plus intéressants, plus enrichissants que moi. Et que cet acte-là, fort, certes, engagé, on ne peut plus... Il est aussi un geste de dire, à ce moment-là, je me sens pas forcément indispensable. Et c'est peut-être un luxe incroyable ou une dimension quasiment transcendantale de se sentir comme ça.
Et puis ensuite, après le Pacifique, il y a la remontée chahutée de l'Atlantique, le passage du Cap Horn, où là, tu sais que tu as beaucoup d'avance. Tu sais que, sauf casse, sauf gros problème, le record, tu vas réussir à le battre.
Ouais, et pour autant, j'ai un petit doute au moment du passage du Cap Horn où je perds 2 jours. Dans le Pacifique, j'ai quand même un problème, il faut que je monte dans le mât. Tout ça me rappelle quand même que c'est fragile et qu'on est super fragile quand on est sur un bateau. Et quand on est sur un bateau de cette taille-là, encore une fois, c'est un bateau qui fait 32 mètres par 23, par 35, sous des bouts, c'est un monstre. Et à l'échelle de la planète ou de la mer, on n'est rien du tout. Et donc, jusqu'à la fin de cette remontée, on se sent d'une fragilité et on sent que tout ne tient qu'à un fil. Et c'est l'esthétique de ça, c'est que chaque victoire ne tient qu'à un fil. Moi, je ressens ça chaque fois que j'ai l'émotion de regarder un grand athlète gagner, un Roger Federer, tous les grands. Et ces mecs-là, tu sens qu'ils ont cette émotion d'être conscient que ça tient à un fil et pourtant, ils y croient jusqu'au bout. Et ils gagnent parce qu'ils y croient jusqu'au bout. Et à Ouessant, effectivement, cette délivrance, elle me dépasse. Et là c'est ça, les grandes victoires. C'est quand tu sens que ce n'est pas qu'une victoire pour toi, mais c'est une victoire qui te dépasse et qui va plus loin, qui va plus haut. Et des milliers de gens, voire des millions de gens, parce que je reçois encore des témoignages de ça, ils s'en sont emparés. Ils sont rentrés dans cette histoire de ce mec qui tente 5 fois et qui va jusqu'au bout du rêve. Et ça nourrit quelque chose qui te dépasse. Dans notre relation aujourd'hui d'amitié et de ce qu'on a vécu dans ce moment-là, à cette arrivée, puisque t'es avec moi à cette arrivée, avec Elliot et avec finalement...
Ton fils.
Ouais, et t'es notre trait d'union à ce moment-là. Je vis ça avec toi à ce moment-là. Tu fais partie de mon histoire à ce moment-là. Tu fais partie de mes images. Et j'avoue que je suis... à chaque fois très ému du ton que tu arrives à donner. Et là, de ce qu'on arrive à vivre ensemble entre toi, moi, Elliot, c'est juste un moment qui est d'une finesse, d'une sensibilité, d'une subtilité qui n'appartient qu'à nous trois et qui pour autant est quasiment transcendantale. C'est pas ton fils, on se connaissait pas très avant. C'est ça l'humanité.
Mais ce qui est génial, Thomas, c'est que effectivement, tu coupes la ligne en 49 jours, 3 heures, 7 minutes, 24 nœuds de moyenne, ce qui équivaut à 45 km/h. C'est monstrueux sur un bateau. Et moi, je voudrais revenir sur ce moment où tu me permets, c'est l'un de mes plus beaux cadeaux, d'arriver avec tes plus proches sur ton bateau, c'est-à-dire te rejoindre sur ce bateau. Et là, je te sens d'une pudeur extrême. Il n'y a pas d'explosion de joie, il y a quelques larmes, mais il y a surtout de l'observation. J'en ai des frissons quand je te dis ça. Il y a un sentiment de partage.
En fait, j'accepte à ce moment-là, quand tu montes, là, de relâcher que ça va me dépasser, que ça ne va plus m'appartenir et que je l'offre et que je le donne parce qu'effectivement, j'ai été porté pour arriver jusque-là et j'ai cette reconnaissance et cette humilité de dire « oui, je ne serais jamais arrivé sans vous ». J'ai encore cette fragilité du moment que je me rends compte que ça tenait qu'à un fil. Et donc, cette honnêteté de dire ça aurait, tout aurait pu s'arrêter il y a encore 48 heures. Et donc, t'es encore dans cette fragilité. Et quelque part, je me sens à la fois singulier à ce moment-là. C'est vraiment ça. Je suis moi. Et par l'acte que je viens de faire, voilà qui je suis. Et c'est ce que je... Quand tu me poses la question, c'est quoi un hardcore? C'est ça, c'est très impudique quand même de se livrer à ce point-là et de se sentir à poil, dans le sens figuré du terme, de donner tout ce qu'on a.
C'est peut-être dans ta vie de marin le jour le plus important de ton existence. Néanmoins, tu relativises. Et moi, il y a un élément qui me surprend. C'est-à-dire que ta femme est là, ton fils Elliot est là, mais ta fille n'est pas là parce qu'elle est en séjour aux États-Unis. Et pour toi, c'est tout à fait naturel. Elle a sa vie et il était beaucoup plus important qu'elle poursuive ce qu'elle était en train d'entreprendre elle-même plutôt que d'être à l'arrivée de son papa de héros.
Ouais, c'est marrant que tu soulignes ça parce que là, c'est vraiment dans notre intimité de famille et de couple. Cathy, ma femme, m'appelle quelques heures ou quelques jours avant l'arrivée. Elle appelle Jeanne aux États-Unis, qui est effectivement en séjour de césure pendant un an aux États-Unis. Et elle propose évidemment à Jeanne de revenir pour juste l'arrivée. Et Jeanne prend cette décision que j'adore. C'est pas le courage, c'est qu'elle a compris le message que j'ai essayé ou tenté de transmettre pendant toutes ces années où cette petite fille, puisqu'elle naît quasiment avec ce record ou avec ses records, voit son papa rentrer avec les bottes lourdes, d'avoir échoué, d'avoir encore tenté et de ne pas avoir réussi, quelquefois agacé, pleurant. Et pour autant, elle retient le message que finalement, chacun trace son sillage, trace son chemin et qu'elle, aux États-Unis, il faut qu'elle continue à aller jusqu'au bout de son chemin à elle. Et elle m'appelle au téléphone en me disant « Papa, j'ai pris la décision de ne pas rentrer pour ton arrivée ». Parce que je pensais que si je l'avais fait, tu m'aurais presque reproché de ne pas avoir été jusqu'au bout. Et j'ai trouvé cette perception et cette lecture absolument magique. Et j'ai été très, très, très ému de cette maturité, de cette lecture et de cette spontanéité. Et c'est vrai que dans ces moments-là, y a des choses qui se révèlent comme ça, qui changent la vie d'un homme et d'un père et de la relation avec sa fille. Et là, c'est un cadeau merveilleux. C'est quasiment le plus beau trophée pour un père que d'avoir cette dimension-là, ça c'est certain.
Thomas, ça restera en tout cas pour moi en tant que journaliste, mais j'ai dépassé totalement mon métier ce jour-là, un moment d'extraordinaire émotion. Et j'y repense extrêmement souvent. J'ai encore ce blouson que tu m'as donné et je peux dire que je le garderai toute ma vie. Thomas, tu as battu le record de Francis Joyon sur le Tour du Monde d'un peu plus de 8 jours. Comment tu as vécu le fait que François Gabart, l'année d'après, améliore encore considérablement ce record de près de 7 jours?
Je pense que vraiment, on est avec François, cette génération quasiment bénie des dieux, où on sentait ensemble que notre génération, cette époque, permet de faire faire à notre milieu, notre sport, mais encore une fois, reflète notre époque et notre l'humanité, des batchs géants. C'est-à-dire des choses qui, empiriquement, se sont accumulées pendant des années, d'un seul coup, permettent techniquement et après physiquement de réaliser des choses qui étaient impensables. Et c'est là où je reviens à cette notion de pionnier, mais à cette notion d'époque formidable. Je reste, je disais ça pareil, j'ai trouvé fabuleux ce Edgar Morin, qui, je crois, a plus de 90 ans, disait ça dans Le Monde le week-end dernier, que cette époque l'inspire beaucoup. Je suis très inspiré par cette époque parce que, justement, elle montre l'infinie capacité que l'homme a de progresser. Et quand moi, je bats celui de Francis et que François me rebat, c'est la logique même. Pour être très honnête et pour pas être langue de bois, je pensais qu'il mettrait une ou deux tentatives à y arriver. Je pensais pas que ça arriverait dès la première tentative.
Tu voulais qu'il fasse comme toi, finalement, qu'il échoue avant de réussir.
Non, non.
Je plaisante. Oh,
quelque part, j'aurais presque pu lui souhaiter, tellement, effectivement, ce que j'ai raconté, cette démarche peut aussi amener un bonheur incroyable qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est-à-dire que c'est peut-être le côté amnésique de l'athlète qui, finalement, par la victoire, j'appelle ça l'ardoise magique. Tu vois, cette ardoise que les enfants avaient, on écrivait, ouais, puis
top,
on passait et ça effaçait tout le reste, ou le tableau noir, qu'on d'un coup d'éponge, on arrive à effacer tous les efforts. Je me souviens d'avoir parlé de ça avec Tony Estanguet. Quand à Pékin, il échoue, mais quand il gagne cette médaille d'or à Londres, ben, je pense qu'effectivement, ce relief, il est très fort. Et François, il connaît ça aussi. Mais encore une fois, non, cette dimension que d'un seul coup, il y a eu un accélérateur ou une accélération technique de notre époque qui nous permet aujourd'hui d'accéder à ça, et les bateaux volants vont arriver de nouveau à produire ça, alors peut-être pas dans les mêmes proportions, mais ce qu'on est en train de vivre est une évolution considérable. On change d'époque, on change de monde, on change de paradigme, mais encore une fois, c'est très enthousiasmant. C'est la bonne et belle partie de la technologie, de la technique, quand elle sert les rêves. Je suis conscient aussi que dans ce côté ingénieur où le fait d'être fasciné par la technologie et la technique peut aussi avoir ses limites ou ses dangers ou ses angoisses pour certains. Et je les partage de temps en temps par rapport à certaines dérives que peuvent avoir la science, par exemple. Mais je ne peux pas ne pas être enthousiaste et inspiré par notre époque, ça, c'est pas possible.
Quand on vient de vivre ça, quand on est sur le toit du monde, après avoir autant échoué, comment on s'en remet? Est-ce que on s'en remet complètement d'un exploit comme celui-ci, d'efforts considérables fournis pendant pratiquement 50 jours, seuls sur les mers les plus difficiles du globe?
En fait, j'ai eu quelques heures après l'arrivée et après quelques jours après l'arrivée, après les débriefs, j'avais cette angoisse quasiment, hein, ça m'a pris aux tripes. J'avais peur que ça soit de la chance. En fait, l'athlète, il est là-dedans. Le pire doute de l'athlète, c'est de gagner et de ne pas savoir reproduire. Et j'ai eu pendant quelques mois une espèce de phobie que ce qui m'était arrivé finalement, c'était de la chance. Et donc, j'ai poussé mon équipe. Je me suis quasiment heurté à un mur parce qu'eux étaient aussi satisfaits, mais aussi ils soufflaient de cette victoire et de ce record. Et pour autant, je voulais absolument enchaîner sur un autre et j'ai choisi celui qui était un record beaucoup plus court qui était entre New York et Cap Lizard. Et je voulais tenter ce record, l'Atlantique Nord en solitaire. Et je voulais effectivement, j'avais pas réussi à exprimer ou à verbaliser pourquoi j'avais cette angoisse, mais c'était viscéral pour moi. Et donc, on le met en œuvre en juillet alors que j'étais arrivé donc le 25 décembre. Et je rebats ce record de l'Atlantique en 4 jours, 3 heures. Et c'est vrai que j'avais vraiment besoin de ça pour juguler cette sensation de l'athlète qui a peur de ne pas être capable de reproduire. J'ai eu cette conversation avec Michel Serres là-dessus et c'est le philosophe qui, effectivement, a écrit un livre, puis un second, et qui a le doute et l'angoisse de la page blanche. Il me l'a raconté, je ne sais pas combien de fois, Michel, cette page blanche.
Tu te considères, Thomas, plus comme un aventurier, comme un sportif de haut niveau ou comme un explorateur, pas forcément de terres inconnues, mais de sensations nouvelles?
Effectivement, la notion de défricher la notion d'expérimenter ou d'avancer quasiment dans l'inconnu quelquefois de la science ou de l'inconnu. Quand tu dévales des vagues à 40 nœuds sur un trimaran en pleine nuit et dans des grosses vagues dans le Pacifique, c'est à mon avis l'image que je ferais de l'humanité qui avance dans son destin et comme on est pionnier. Mais quelle sensation extraordinaire que de se sentir pionnier et de se sentir dans la sensation de la glisse que ça représente pour moi de cette vague. Donc je me considère effectivement comme un pionnier qui, pour tout le reste, met les choses en perspective et met les moyens pour vivre ces sensations-là.
Le cadeau, entre guillemets, de cette victoire, de ce record autour du monde, c'est le nouveau projet. C'est ce nouveau bateau, Sodebo Ultime 3, que tu vas fabriquer, concevoir avec, et là c'est à l'ingénieur aussi que je parle, une véritable révolution, notamment sur la position sur ton trimaran du cockpit.
Jean-Christophe Moussard, le manager du projet, me pose cette question incroyable le lendemain de l'arrivée au petit déjeuner. Est-ce que ça te tente toujours de construire un nouveau bateau pour repartir et recommencer mais en partant d'une feuille blanche et en partant d'un engin nouveau.
Faut pas te le dire deux fois, hein.
Ouais, faut pas me le dire deux fois. Et à la fois, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide, quoi. Je pensais pas qu'il le ferait dans cet instant-là. C'est à la fois la marque la plus fabuleuse de confiance, cette envie que l'histoire continue. Et là, on part de cette feuille blanche. J'ai envie d'y mettre effectivement toute mon énergie, tout ce que j'ai pu accumuler comme expérience sur ces différents tours du monde et avec le groupe que j'avais constitué autour de moi. Et on se lance d'abord dans la constitution d'un groupe et ça fait émerger un bateau que j'aurais jamais imaginé seul, qui pousse le bouchon de mettre l'habitacle dans lequel je vis, dans lequel je suis protégé, devant le mât, alors qu'habituellement il est à l'arrière du bateau, pour aller vers les aéronefs, pour aller vers les avions et les planeurs, pour centrer les masses et pour que ce bateau se mette à voler. Et que la prochaine étape du prochain tour du monde, c'est non plus que de naviguer en archimédien, mais de voler autour de la planète sur des foils et en étant à entre 50 et 80 cm au-dessus de l'eau pour aller encore plus vite, encore plus loin. Et cette dimension devient à ce moment-là complètement incroyable, quoi. Et on en est là aujourd'hui. C'est ça qui est magique dans notre boulot, c'est qu'on a des rêves. Quand je parle et quand j'ai défini ce bateau, j'ai dit qu'il allait aller plus vite que le temps qu'il fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les bateaux étaient poussés par le vent. À un moment donné, avec le record des 50 jours, on a réussi à aller aussi vite que le vent. Et ce bateau volant, comme toute cette génération, va réussir à rattraper le vent qu'il y a devant nous. C'est un bateau qui va aller plus vite que le temps qu'il fait, rattraper le vent, aller plus vite que le vent. Et d'un concept comme ça, on en a fait une réalité. C'est quelque chose qui existe maintenant, qui fait 32 mètres par 23 par 35. Et là, j'avoue que ça me plaît d'être pionnier et de dire aux gens, un rêve, à un moment donné, il se concrétise et il est en carbone, il existe. C'est pas qu'une vue de l'esprit.
Et Thomas, ce maxi trimaran devrait maintenant t'emmener une nouvelle fois autour du monde, d'abord en équipage, puis ensuite en solitaire, en commençant par le mythique trophée Jules Verne, ce tour du monde en équipage que tu connais parfaitement bien, puisque tu étais dans l'équipe de Bruno Perron en 93, que tu l'as fait en 97 avec Olivier de Kersauzon, ça on en a parlé, et puis tu l'as tenté et réussi une nouvelle fois avec Franck Camas en 2010. Là, tu vas t'élancer, Thomas, cet automne sur ton bateau en étant le leader. Et tu es passé sous les 50 jours en solitaire. Penses-tu maintenant être capable d'être le premier sous les 40 jours en équipage avec ce nouveau bateau ?
Ouais, c'est la gageure de ce bateau. C'est l'objectif de ce bateau qui ouvre un nouveau champ des possibles. C'est le rêve ultime en équipage. C'est, je pense, le défi le plus audacieux de la voile moderne. On a cette chance aujourd'hui de relever ça.
Comment ton comportement va évoluer ? Entre un tour du monde en solitaire où tu es seul face à ton destin, face aux décisions à prendre, et un tour du monde en équipage où il y a forcément, même si tu es le leader, un partage des responsabilités.
Je me délecte de ça, j'avoue que je suis un caméléon. La relation à l'autre me passionne, tu l'as compris. Je me nourris des autres, ça c'est une évidence. L'exercice en ce moment de constituer une équipe et de leur faire comprendre qu'effectivement, à bord, cette notion de la relation à l'autre, que l'autre est plus important que soi, que l'écoute est indispensable. Mais je suis aujourd'hui jusqu'à construire avec eux sur les fragilités, sur finalement la nécessité qu'ils aient des points forts. Et tous sont d'excellents barreurs, par exemple, d'excellents règleurs. 80% d'entre eux sont déjà aguerris à la notion de bateau volant, bien meilleur que moi. C'est une notion très importante. Un leader et un bon leader s'entourent toujours de gens bien plus compétents que soi. Et ça me nourrit une nouvelle fois. Et je leur fais comprendre que j'ai conscience qu'ils sont meilleurs que moi. Et qu'à certains moments, ils m'aideront à prendre la meilleure décision. C'est sûr que sur un bateau, il faut un leader qui tranche et qui prenne les décisions. J'assumerai ça. D'ailleurs, on aura du mal, et c'est la magie de l'équipage, ce qui se passe à bord reste souvent à bord parce que c'est tellement inexprimable la subtilité de cette combinaison des forces et des faiblesses de chacun et de ce que ça constitue. Et alors quand ça gagne, quand ça montre que ça peut être performant, mais c'est ça ma plus grande solitude quand je rentre à terre.
L'ironie du sort, c'est que tu as battu le record en solitaire de Francis Joyon et que potentiellement, tu pourrais, si tu passes sous les 40 jours, battre le record établi en 2017 par ce même Francis Joyon en 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 50 secondes. Moi, je voudrais aussi parler de l'avenir. Tu as 53 ans et demain, est-ce que tu vas être encore marin ou est-ce que tu souhaites être maintenant le pilier de ton fils qui semble avoir envie de marcher dans tes pas.
Aïe, 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 Denis. Alors, on a parlé de Jeanne tout à l'heure parce qu'effectivement, elle a eu cette magnifique décision de ne pas être à mon arrivée du Tour du Monde. Et donc, elle a compris cette dimension de vivre et de construire sa propre musique et ses propres pas. Effectivement, Elliot, depuis quelques années, à me voir, à monter sur les bateaux, à lui-même, effectivement, maintenant, naviguer. Il décroche son premier titre de champion du monde l'année dernière à 15 ans. Il y montre effectivement une énergie, certaines velléités, une passion incroyable. Je ne peux pas réfréner ça. Donc, je suis ému de ça parce que je vois bien qu'il est animé par quelque chose qui nous réunit et qui fait un trait d'union entre nous deux et que le contact avec la nature ou l'élément est vraiment fort chez lui aussi. Il a une extrême sensibilité et je pense que les athlètes sont nés de cette graine-là où ils ont ça en commun. Ils sont même souvent fragiles et sensibles, comme des artistes.
Il va être plus fort que toi ?
Oh, je l'espère, mais je le sens déjà plus fort que moi. Sur le bateau volant, par exemple, il l'est déjà. Sur certaines perceptions en planche à voile ou dans des supports plus légers, il est déjà effectivement plus fort que moi. Mais quel bonheur quand on est un père que de sentir que ses enfants vous dépassent et qu'ils ont ils ont gagné cette capacité ou cette autonomie. Donc j'ai ce regard-là aujourd'hui et il me comble. Mais je suis conscient de la chance que j'ai d'avoir ça aujourd'hui et de le voir ou de le vivre. Ces moments de confinement, ils permettent aussi quelquefois, contrairement à la génération d'avant, de pouvoir le dire. Je pense que la génération avant nous ne se disait pas les choses ou avait du mal à les transmettre ou par exemple un père n'exprimait pas l'admiration qu'il pouvait avoir pour ses enfants ou d'avoir perçu la sensibilité qu'ils avaient ou l'émotion ou de transmettre une émotion entre eux, c'était pas facile. En tous les cas, j'ai ressenti ça pour mes parents et là je ne me bride pas ou je ne me frustre pas de pouvoir exprimer ça pour lui ou avec eux.
Elliot pourrait un jour intégrer un équipage dirigé par son papa ?
Oh là !
Est-ce que tu en as envie ?
Je l'ai amené l'autre jour et il nous a aidé à tendre le filet. Donc, je lui montre aussi que ça démarre de tout en bas. Je lui ai donné un balai et il a balayé l'atelier. c'est aussi ma manière aussi de transmettre, que ça part de tout en bas et que on peut y arriver, mais c'est aussi beaucoup d'efforts et beaucoup d'humilité. Mais je ne sais pas si ce serait la meilleure école que de le faire avec son papa. J'avoue que là, je retrouve cette affiliation que j'ai eue de comprendre que des gens comme Laurent Bourgnon ou comme effectivement Olivier de Kersauzon ou tous ceux que j'ai côtoyés m'ont à certains moments dans ce contexte-là peut-être apporté plus que un père biologique.
Thomas, ton rêve absolu sur l'eau, c'est quoi ?
De retrouver l'équilibre d'une goutte d'imagination que j'avais dans ma tête et d'un seul coup, entre l'eau et l'air, de la retrouver. Et j'ai en moi des souvenirs d'une vague particulière dans le Pacifique, d'un surf magique dans l'océan Indien, ou quelquefois même dans la baie de Quiberon, d'un équilibre parfait où le bateau, il est dans tes sensations, dans tes émotions, dans le rêve que tu avais avant que ça existe, déjà vécu ça et que tu le vis là et que tu l'as construit.
La plénitude.
Là, à ce moment-là, tu es dans un espèce de rapport au temps qui n'existe plus, c'est-à-dire entre l'avant, le moment et quelque part ce qui pourrait arriver. Tout se mélange et c'est très, très difficile à exprimer. C'est quasiment dans la sensation que tu as déjà vécu le moment, tu as déjà vécu l'émotion, tu as déjà vécu quasiment l'instant. Pourtant, il est unique parce que tu savais que c'était possible de le faire et que tu trouves cet équilibre avec l'eau, l'air, le vent, et l'équilibre physique de l'architecture que tu as eu là. Et ça te met dans un émoi et dans une... Tout s'aligne d'un seul coup, tout devient vrai.
Thomas Coville, merci infiniment d'être venu dans Vie d'aventure, car ta vie résume ce que je considère être celle d'un aventurier accompli, un aventurier équilibré, ou tout du moins qui réussit à gérer ses déséquilibres. Merci beaucoup, j'étais très touché que tu acceptes mon invitation.
Merci à toi Denis, c'est une émotion partagée. Vraiment, je te considère comme un trait d'union et comme quelqu'un qui fait partie de ma vie et de mes émotions. Merci beaucoup à toi.
Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.